Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint in Box, Planète Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bonsoir, bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée à l'album paru chez Panini tout récemment sur le personnage de Sana Staros. Donc ici Francis en direct de Québec et comme à notre habitude de ces derniers temps, je rejoins Jean en direct de l'autre bout du continent. Ça va bien Jean?
Ça va bien, ça vient. Bah, j'aimerais bien te dire que ça va bien, mais je sais pas si on le voit là, tisane, voix un peu enraillée. Je crois que ma voix a décidé de faire un cosplay de James Earl Jones, là, tu vois.
C'est pas loin, dis donc. Non, je suis ton père,
j'espère. Ah, est-ce que tu le fais quand t'es enroué? On le fait tous?
Non, tu vois, c'est... on le fait tous, ça, c'est peut-être juste toi, Jean,
je sais pas. Ah ben, écoute, je le fais à chaque fois que je suis enroué, du coup. Ça me surprend qu'avec quatre enfants, tu l'aies jamais fait.
Ouais, non, puis mes enfants savent que je suis leur père, là, c'est assez... la ressemblance est assez... et pas fortuite. Bref, voilà, aujourd'hui, on est là pour parler de Sana Staros. Avant d'aller plus loin, on vous rappelle de rejoindre le groupe, notre partenaire littérature, donc Star Wars Littérature Québec. Hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, groupe Facebook, discussion, il y a des petits podcasts aussi de l'équipe. Bref, venez jaser avec nous, que vous soyez du Québec ou non. Et un petit WhatsApp rapide, Jean?
Oui, ah, d'abord le WhatsApp. Alors, WhatsApp littérature, on continue toujours, tu sais, la saison 2 de Mandalorian en comics, là?
ça commence mal.
Ah oui, non, ça commence très mal. Comme ça sera évacué, parce que c'est toujours aussi nul que la saison 1, hein, c'est toujours gentil. Et ouais. C'est le truc qui est énorme, c'est qu'ils ont mis un deuxième dessinateur, on en avait déjà parlé, mais qui est aussi, non, je dirais pas aussi nul que gentil, mais qui est quand même très nul. Pas aussi nul, mais quand même nul. Du coup, c'est marrant, ils mettent tous les dessinateurs pas ouf sur ce comics, et puis voilà, quoi, c'est vraiment... il reste moche, du coup, comme comics, donc c'est pas intéressant. Non, ce qui est plus intéressant, par contre, c'est... on a fini avec ma petite, là, les épisodes 14 à 19 de la série jeunesse Young Jedi Adventure. Les aventures des petits Jedi, je crois, en français, que ça s'appelle.
Ouais, je me souviens plus la traduction, hein, pour Disney+.
Voilà. Pour Disney+, voilà, et voilà, mais c'est super, enfin, pour la cible, quoi, pour les tout-petits de 6 ans, c'est parfait, quoi, et même pour les grands 30 ans aussi, c'est pas mal. Moi, j'ai trouvé ça dans la continuité des 13 premiers épisodes, hein. Sauf que là, donc, on en avait parlé aussi, l'épisode 14, avec des personnages de la Haute République, des personnages de romans, donc Loden, comment il s'appelle, Belle Zetifar.
Son chien Amber, ouais.
Voilà, et ouais, c'est toute une intrigue sur le... Bon, là, je spoil l'épisode, mais bon, on l'a tous vu, sur justement la chienne Belle qui s'est échappée dans la forêt, donc il faut que Belle et les jeunes Jedi la retrouvent et tout, donc, c'était super cool. Et ce qui est bien, c'est que c'est la première fois qu'on les entend vraiment parler, quoi, parce que c'est des personnages qui n'étaient pas apparus, je crois, dans les audio-dramas ou quoi, ou même pas en série ou quoi. Du coup, c'était très cool, et les voix sont super stylées, la voix de Belle, j'aime beaucoup. Et il y a l'épisode aussi 17 où le groupe de jeunes va se rendre sur le Starlight Beacon. Là. Du coup, on voit le Starlight Beacon pour de vrai, pour la première fois en série, dans la série pour les petits. C'est marrant, enfin, je trouve ça rigolo. Donc très très bonne série. Ouais, et y a...
On croise aussi, comment il s'appelle, Maru.
Voilà, Maru, oui, c'est ça. Voilà. Estala Maru. Voilà. Le concierge un petit peu de la station qui.
Ouais, c'est vrai que c'est un bon titre pour la fonction. Voilà, bref, avec la peau rouge là, qu'on voit beaucoup dans les comics, entre autres.
Ouais, qui a une espèce de pic là. Et du coup, c'était très cool aussi de les voir en bah, pas en live, mais en animation, quoi. Donc, voilà, donc, très très bien. Voilà, et là, on a commencé, on a presque fini tous les Lego Star Wars, là, mais on en reparlera plus tard.
Excellent.
On se refait les téléfilms Lego Star Wars.
Oh, ok. De mon côté, il y a plein de petites choses, mais bon, certains les sachants sachent que pour aller avec les casques qu'on voit derrière moi, de mon côté, dans des armoires, là, des présentoirs IKEA, j'aime présenter le casque avec le pop associé au casque. Hein, et c'est ça, depuis que je m'étais procuré le Scout Trooper, juste ici, derrière moi. Donc, c'était l'été dernier, si je ne me trompe pas. Au printemps, peut-être, quelque chose comme ça. C'était très difficile, hein, parce que du côté de chez Funko Pop, il n'y a pas eu beaucoup. Il y a eu le tout dans la toute première vague, là, les vieux, il y avait eu un Scout Trooper. Mm-hmm. Et il y a celui que, voilà, que vous voyez à l'écran, qui était une exclusivité là, des espèces de boîtes surprises de la marque Funko. Là, donc, il faut que tu t'abonnes, puis que tu paies une fortune et que tu te ramasses avec plein de choses qui vont finir aux poubelles parce que tu vas faire avec ça. Et bref, voilà, j'ai réussi à trouver un prix raisonnable en Californie. Donc, pour agrémenter mon casque de Scout Trooper, et faut avouer que ça a de la gueule, mm-hmm. comme certains disent. Je le trouve très, très, très joli. Et ça, évidemment, ça va tout de suite rappeler, même à des gens qui sont pas des fans finis de Star Wars, c'est quoi ce casque-là, c'est quel personnage. Ça, dès qu'on le voit, en plus avec la moto jet, là, mm-hmm. avec le speeder bike, on voit tout de suite la forêt d'Endor qui passe à tout à l'heure, etc. Donc voilà, pour le petit WhatsApp. Si je te demandais, Jean, côté émission récente, les auditeurs ont eu quoi à se mettre, si c'est pas déjà fait, ils ont quoi à se mettre sous la dent?
Alors, récemment, donc en littérature d'abord, on a eu notre review du roman Crimson Climb, ouais. Par E.K. Johnston, qu'on a reviewé avec en compagnie de la très sympathique Julianne. Ensuite, toujours en comics, toujours en littérature, pardon, on en a review le comics Yoda. Très bonne surprise aussi, hein, comics Yoda.
Exact.
Sorti chez Panini là récemment, en début décembre. On a également fait l'émission annuelle des idées cadeaux, idées de fête 2023. Donc toute l'équipe française et québécoise vous présente un peu leur sélection de produits Star Wars pour les fêtes. Et donc en publication, en cours de publication, là, qui ça devrait pas tarder, je pense qu'il sera déjà peut-être publié au moment où cet épisode sortira, peut-être. Mm-hmm. C'est le Star Wars Collector sur les figurines de 12 pouces, donc présenté par l'équipe française, donc Boba Fred et Seb, je crois.
Oui, exact, Seb Galano.
Seb Galano.
Donc ça, c'est ça sur les figurines de 12 pouces. Hein. Donc bref, on l'a pas encore vu, comme vous voyez. On va le découvrir en même temps que vous. Excellent. Juste avant d'aller à l'hyperespace, on va peut-être rappeler, si c'est pas déjà fait, de vous réabonner suite à la grande purge de Meta, donc à nos comptes sur Facebook et Instagram, si ce n'est déjà fait. Et la nouveauté, c'est Star Wars en direct, présent sur le nouveau réseau Blue Sky. Nouveau, là, ça date de quoi? Le printemps 2023, je crois, le lancement du réseau. Et demandez-moi pas personnellement, qu'est-ce qui fait que c'est différent d'un autre réseau? Je ne pourrais pas vous le dire. Mais bref, j'ai cru comprendre que c'est une espèce de concurrent de Twitter, si on peut dire, mais peut-être beaucoup plus décentralisé, là, et toutes sortes d'applications qui peuvent être ajoutées. Bref, donc si vous avez... Parce que là, en plus, j'ai cru comprendre qu'il faut être invité par des membres. Hein. Pour l'instant, sur ce réseau-là, c'est pas tout toi. Mais bref, si vous êtes déjà présent, venez nous faire un coucou, venez suivre Star Wars en direct sur Blue Sky. Est-ce que c'est ton cas, Jean? Est-ce que t'es sur Blue Sky?
Pas encore, mais faut savoir, j'étais pas déjà sur Twitter, donc...
Non, c'est ça, moi non plus, je fais partie des gens qui ont toujours détesté Twitter depuis toujours, donc...
Est-ce que c'est une question de génération? On est peut-être trop vieux pour ces conneries, je sais pas.
c'est possible, c'est comme tout, hein, les modes passent, mais même Facebook s'est rendu pour les vieux comme nous, les jeunes n'y vont plus. Et dernière petite plug, si on peut dire, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la boutique, Noël s'en vient, ça peut être une excellente place pour des idées cadeaux. Bon, vous voyez, je porte un t-shirt, là, une création de Danny, un mash-up entre Star Wars et la série Yellowstone, série à grand succès là, de... C'est Paramount, Amazon? Non, c'est Paramount. Hein? Bref, voilà, là, c'est le Tatooine Banter Ranch. Hein, ceux qui ont suivi la série Yellowstone reconnaîtront tout de suite le logo. Mais là, c'est un t-shirt, hein, mais vous pouvez trouver toutes sortes d'objets, de design, évidemment des tasses, des blocs-notes, puis pour tous les âges aussi, il y a des trucs pour hommes, pour femmes, pour enfants, pour bébés, etc., etc. Donc, allez faire un tour sur la boutique, juste à aller sur le site de Star Wars en direct, sur l'onglet boutique. Voilà, fait que sur ça, Jean, on passe en hyperespace?
Oui, it's a trap.
Oh, crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
De retour de l'hyperespace, donc comme j'ai mentionné en intro, on est là pour parler de Sanastaros, donc la mini-série Marvel, une mini-série de 5 numéros, sur un personnage que peut-être certains de nos auditeurs n'ont pas la moindre idée, c'est qui ça?
On parle de Star Wars, les gars, c'est toujours Star Wars.
C'est un personnage, ouais, et en fait, ben, on peut faire l'historique très très rapide, hein. C'est un personnage qui est apparu dès le lancement du canon. J'ai le premier album ici, là, donc de 2015. Je pense qu'il est apparu dans le quatrième numéro et ça avait fait un point, comme on dit, comme certains disent à l'époque, parce qu'elle était tout de suite, elle se présentait comme la femme de Han Solo, hein, donc la wife, la femme. Et là, on voit la réaction de Leia et de Han Solo qui dit « Oh non! » Donc voilà, c'est comme ça qu'il est apparu Sanastaros, mais faut quand même mentionner que dans l'univers du comics, c'est loin d'être un personnage secondaire. Je suis allé vérifier là, pour l'émission, et elle est apparue quand même dans, je crois que c'était 65-66 comics depuis le canon, là, depuis le lancement du canon en 2015, c'est quand même énorme pour un personnage secondaire, parce que dans le fond, c'est ça, elle est apparue beaucoup dans la série Star Wars, beaucoup dans la série Afra. Elle est apparue aussi dans des one-shots, toutes sortes d'autres histoires. Elle a travaillé avec Lando à un moment donné, mais elle était aussi dans le roman Last Shot. Je sais pas si tu te souviens, Jean, là, La Route d'Honneur là, avait une petite apparition. Tu sais, c'était un roman qui avait comme 6 temporalités différentes. Là, fait que, bref, dans une des temporalités, il y avait Anne qui travaillait avec Sana. Et elle était, évidemment, elle était très présente aussi dans l'audio-drama du Docteur Aphra, où est-ce qu'on avait beaucoup... C'était quand même une reprise de comics, mais on avait beaucoup de valeurs ajoutées, là, de scènes, par exemple, quand il était à l'université, tout ça. Et oui. C'est ça, Sanastaros et Docteur Aphra se sont connus à l'université. Fait que voilà, c'est un personnage ultra présent dans les comics. Mm-hmm. Donc, je pense qu'on peut dire qu'avoir une mini-série de 5 numéros sur elle, c'était mérité. Je veux dire, je crois que l'intérêt y était. En tout cas, moi, j'étais très content à l'annonce de cette mini-série-là. C'est un personnage, je sais pas pour toi. On va mettre sur la table nos attentes.
Oui. Commencer. Ben écoute, comme toi, exactement, comme toi, c'est un peu l'opposé de. On en parlait sur Yoda, où Yoda, on attendait vraiment rien de l'annonce du comics. Et là, c'était l'opposé. Quand ils ont annoncé une mini-série Sana, j'étais au taquet parce que, je sais pas si c'est ton cas aussi, mais c'est un personnage que j'adore beaucoup depuis son apparition. Et notamment...
C'est un personnage que j'aime dans pratiquement toutes les différentes séries ou situations. C'est pas une, on l'a pas précisé, là, ceux qui la connaissent pas du tout, c'est pas une chasseuse de primes, c'est une contrebandière. Oui. Comme Han Solo. Là, vraiment, qui est toujours dans des plans foireux, là. mais c'est ça, aux côtés de Han, aux côtés de Lando, du Docteur Aphra, etc. Ouais.
Et moi, c'est surtout du côté, justement, du Docteur Aphra que je l'apprécie énormément, vu que c'est son ex-copine, hein. Du coup, elles étaient en couple au temps de l'université, et ça s'est pas très bien passé, comme d'habitude avec Aphra, généralement. Et donc, elles sont séparées, et là, la deuxième série d'Aphra qui a repris en 2020, si je dis pas de bêtises.
Oui, 2020.
Voilà, et bien, a vu revenir Sana en tant que personnage récurrent, même quasiment personnage principal, avec en compagnie de Aphra, quoi. Donc le duo, on suivait le duo pendant toute la série Docteur Aphra, donc c'était super cool. Et là, justement, cette mini-série en comics-là reprend juste après leur nouveau break-up, comme si on peut dire, à la fin du tome 5 de Docteur Aphra, si je dis pas de bêtises, où les deux personnages se séparent encore une fois. Et donc, Docteur Aphra continue ses aventures dans ce qu'on verra, le tome 6 de Docteur Aphra, seul. Et Sanastaros s'en va de son côté pour vivre les aventures qu'on va raconter ce soir dans ce tome-là.
Ouais, c'est ça. Je mentionnais, moi, c'est un personnage qui fait très Star Wars, je trouve. Ah oui. Vraiment, là, typé Star Wars. C'est Loïc qui revenait souvent avec l'aspect quand il disait « j'arrive pas à me le figurer à l'écran ». Alors que ce personnage-là, je trouve, c'est parfaitement un vrai personnage de film de la trilogie originale. Tant dans ses... c'est toujours un personnage dans l'action. Oui, un peu un pendant féminin de Han Solo, mais beaucoup plus... c'est plus complexe que ça. C'est pas aussi grossier que ça. Et c'est ça. Moi, ce personnage, j'ai toujours apprécié. J'étais content de l'avoir. Donc, on va voir si nos attentes sont remplies. Peut-être avant de te demander résumer ce qu'il y a dans cet album-là, je vais peut-être afficher à l'écran les specs, comme on dit. Donc, l'album est sorti récemment chez Panini. Donc, c'est les comics 1 à 5, 128 pages pour 18 euros. Ça se passe en plus 3, donc on est en même temps, là, en parallèle des autres séries ongoing. L'auteur, c'est Justina Ireland, qu'on connaît bien, entre autres, de toute la Haute République. Et le dessinateur, c'est Perry Perez, un nouveau dessinateur dans le petit monde de Star Wars. C'est un Catalan, si j'ai bien lu, là, de Barcelone.
Yes.
Donc, on montrera son style un peu plus là, tantôt à l'écran. Et au niveau des couleurs, on a Jay David de Ramos et en équipe avec Dono Sanchez Almara. Je ne sais pas si c'est des Catalans aussi ou des Espagnols, en tout cas, bref, je n'ai pas vérifié. Et au niveau des couvertures, on les montrera aussi, c'est Ken Lashley et Juan Fernandez, si je ne me trompe pas. Là aussi, bon, bref, on reparlera après des styles. Si je te demandais, John, de nous faire un petit résumé... À mon avis, c'est quand même un résumé qui se fait relativement vite là, de cette mini-série-là.
Oui, que 5 numéros. Donc, ben, on entame le tome en finissant une mission de casse de Sana. D'ailleurs, j'aime bien ce genre d'intro, tu sais, la Indiana Jones ou la James Bond, ou même la Pirate des Caraïbes.
Ouais, on commence dans l'action. Là.
Voilà, et on commence sur une aventure qui termine, qu'on n'a pas vécu. Ça donne du corps au personnage et un côté vivant au personnage. Je trouve ça bien. Donc là, elle finit cette mission-là, et juste après, elle va se rendre sur Ocean Prime. Mais alors, pas le Ocean Prime qu'on connaît de l'épisode 7, plus un endroit plus reculé de la planète, plus campagne, on va dire, pour y retrouver sa grand-mère, Théa. Elle y rencontre aussi donc, le reste de sa famille, on ne l'a pas dit, mais le tome s'appelle Family Matters, en anglais. Donc la famille compte, et du coup, ben, on va rencontrer tous les membres de la famille Staros. Donc sa grand-mère Théa, sa cousine Arisha, qui est enceinte de son impérial de mari. Là, on ne sait pas encore qu'il est impérial, le mari. Mais voilà. Et sa tante, Mévera. Donc, on apprend que Sana a un frère aussi. Un frère jumeau, d'ailleurs. Mais pour elle, il est mort. Hein. Sous-entendu, il a fait un truc qu'elle ne lui pardonne pas. On ne sait pas encore ce qu'il a fait, mais bon, on a ça. On apprend aussi, là, on apprend plein de trucs. Dans le premier numéro, c'est vraiment le background de Sana. On apprend que sa mère est morte juste après sa naissance, apparemment. Et que son père l'a élevé seul, enfin, a élevé seul Sana et son frère. Donc Sana sent qu'il y a un truc pas net au sein de la famille, il y a une espèce de secret familial entre elles. Là. Et là, bam, l'habitation se fait attaquer par des Stormtroopers et l'Empire. Et la cousine avoue que c'est son mari, qui est impérial, donc, et que c'est lui qui attaque la base. Donc il embarque sa femme et ordonne d'exploser la base des Staros. Sana, sa tante et sa grand-mère vont donc s'armer et partir à la poursuite de la cousine. En plus de ça, la tante veut récupérer un artefact cher à la famille Staros aussi, que l'Empire a en sa possession. Ensuite, on a dans le vaisseau du mari, donc t'as la cousine Arisha, elle n'en peut plus quoi, de son mari, il est ultra protecteur. Ça, plus le fait qu'elle est enceinte jusqu'à la gorge,
ouais, c'est ça, comme ça, vaisseau voilà. Qui est une corvette, comme on avait avait introduit la série et le jeu Battlefront 2.
Ah, ok, excellent.
Une corvette impériale, là, en espèce de pointe de flèche, là. Qu'on avait aussi, évidemment, dans le roman qui était rattaché à Battlefront 2, là, mais bref, vaisseau très stylé, que j'ai toujours bien aimé.
Très, très bon. Et c'est un vaisseau qui est apparu dans le jeu, hein, qui a été créé pour le jeu.
Ouais.
Ah, excellent. Donc les Staros, donc le reste de la famille à la poursuite de la cousine, vont se faire attaquer par un chasseur de primes. Elles vont vite fait s'en débarrasser. Et là, la grand-mère, elle va raconter l'histoire de l'artefact là, des Staros, qui est un espèce de petit cube qui renfermerait des recherches de Avon Staros sur des cristaux. Et Avon, c'est une ancêtre donc de Sana du temps de la Haute République. On en parlera un peu plus tard. Elles vont chercher de l'aide auprès de Deva Lumpop. Pareil, c'est Deva, c'est un personnage qu'on connaît un peu dans les comics maintenant, c'est un personnage qui commence à revenir, une espèce d'alien verte avec des plumes sur la tête, là. Et une bouche à la serpent. Là.
Donc, un personnage très comics, hein, faut avouer.
Exactement.
Oh, mais qui serait très cool à voir à l'écran, ça serait quand même une race impressionnante à voir au petit au grand écran.
Je sais pas si Loïc il approuverait, je ne le verrai jamais en live action, mais moi c'est justement ce genre de design que j'aimerais trop voir dans une série Afra avec Sana et elle, ça serait trop top. Donc on apprend que le frère jumeau de Sana est aussi impérial, d'où sa haine pour son frère, et c'est lui qui aurait volé l'artefact d'Avon, Staros. pour gagner les faveurs de Deva, donc les Staros vont devoir participer à une mission avec elle et son crew. Elles vont aller libérer un Rancor dans une espèce de zoo intergalactique là. La Grandma Staros va se faire kidnapper par le Bounty Hunter d'avant. Lui, en fait, il veut la prime mise sur la tête de la tante Staros. Mmh. Donc, il capture Grandma pour les faire marcher, pour pratiquer un échange avec la tante. En attendant, la cousine, elle est toujours dans le vaisseau et son mari, est toujours dans le vaisseau de son mari à la recherche de l'artefact. Donc, elle a en quelque sorte un petit peu infiltré le vaisseau pour essayer de chercher l'artefact. Et là, bam, elle tombe sur Fel Staros, donc qui est le frère jumeau de Sana. Donc un impérial. Ensuite, on a un petit flashback de comment Fel est devenu impérial. Donc Sana l'aurait abandonné, entre guillemets, pour aller à l'université. Le gars a mal vécu la séparation, il a mal tourné, il est devenu loyal à l'Empire. Donc,
ouais, okay. Ouais, c'est, on en reparlera, mais j'ai trouvé ça tellement, tellement mauvais comme rêve.
Je pense qu'on est, sur la même longueur d'onde, ça va être intéressant. L'échange entre Tata Staros et Grandma Staros se passe mal et tourne en fusillade. Tata est blessé. Sana est confrontée à son frère, qui la shoot, mais qui est sauvée in extremis par Deva, qui prend le tir. En plus de la grande mala, la Tata aussi se fait embarquer par le brother, par le frère, et donc par l'Empire. Dans le vaisseau impérial, elle rejoignent la cousine, hein, qui va accoucher dans peu de temps, donc réunion familiale au sein du vaisseau impérial là, pour l'accouchement. Et le dernier numéro, donc une petite bataille spatiale là, dans l'espace avec Sana et Deva et son crew. À Deva, qui vont infiltrer le vaisseau impérial du frère et du mari Connard, donc. Grosse fusillade pendant que la cousine accouche, le mari est appréhendé, Sana va récupérer l'artefact, mais en chemin est confrontée une fois de plus à son frère. Cette fois, c'est Sana qui va shoot first, qui va le blesser, et qui va l'envoyer, le balarder dans un escape pod, là. Ah, j'ai pas les noms en anglais.
Capsule de sauvetage. Ouais.
De sauvetage, voilà. Avec le mari, d'ailleurs. Mmh. Donc le mari et le frère vont les deux se faire envoyer là-dedans. Sana va retrouver sa cousine avec les deux bébés, donc deux filles, et l'artefact que Sana va détruire direct. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. La famille est réunie, les bébés vont bien, tout ça. Et un petit épilogue nous montre le frère et le mari dans la capsule qui jurent de prendre leur revanche en mode grand méchant. Donc voilà.
Ça c'est très ouverture vers une éventuelle suite. Ouais. Et au passage, Sana, qui s'est fait un nouveau crush, si on peut dire, là, pour essayer d'oublier Aphra. Donc, c'est quoi dans cette race-là, une Pantorane? Pantorienne?
Pantorienne, oui.
La race que George Lucas jouait lui-même là, dans La Revanche des Sith, là, en bleu.
Ouais. Donc il fait partie du crew de Deva. Donc.
Ouais, exact. Fait que voilà pour cette histoire qui, comme vous voyez, se résume relativement facilement. C'est chicane de famille. on va résumer ça à ça. Tu veux qu'on aborde quoi en premier, Jean? Plus graphique, plus histoire?
On peut commencer par le scénario, comme d'habitude.
Scénario? Écoute, je vais être très curieux de ton avis. J'ai l'impression que tu vas peut-être avoir un meilleur avis de l'album que moi. On peut parler. Justina Erland, l'auteur, s'est rendu inhabitué. Entre autres avec la Haute République, là, donc, mais pas que. Inhabitué de Star Wars. Elle a fait des choses que j'ai beaucoup appréciées. Par exemple, elle a créé le personnage de Vernestra Rowe dans le. Qu'on va même voir dans la série Acolyte, c'est ça? Qui est une des prochaines séries là, en 2024. Mais au-delà de ça, je dois avouer que depuis quelques temps, c'est vraiment la pente fatale. Là. C'est vraiment là. Chaque œuvre me déçoit une après l'autre. Il faut avouer aussi que c'est une artiste, une auteure. Quand on l'écoute, par exemple, en entrevue ou sur, par exemple, dans le Star Wars, comment ils appellent ça, High Republic Show là, sur YouTube, des entrevues comme ça, c'est quelqu'un qui veut faire passer des messages. Et dans cet album-ci, ça se ressent énormément, je trouve. Ou en tout cas, elle est allée choisir vraiment des thèmes qui feraient grandement plaisir à des militantes féministes très engagées. C'est pas caricatural, c'est pas surchargé, etc. Mais moi, c'est des thèmes que je me dis, est-ce que c'est ça que je veux pour déjà dans Star Wars? Est-ce que c'est... on parle de relations toxiques, la cousine là, avec son mari impérial, évidemment, c'est une caricature de méchant, là, T'sais, il tue carrément sa belle famille dès le départ. Là. T'sais, il essaie de tuer tout le monde. Mais puis c'est ça, là, t'sais, qu'il est enceinte, la maternité, la grossesse, etc. Fait que tous des thèmes que, personnellement, quand que je me plonge dans Star Wars, c'est pas vraiment pour me plonger dans ces thèmes-là, de un. Et de deux, le personnage de Sana Staros, moi, je l'identifiais à, justement, à pas du tout à ces thèmes-là. Pas du tout. Là, on est dans son espèce de quotidien familial. En plus, ben, tu as mentionné rapidement, je peux la remettre à l'écran, là, l'histoire de la famille qui est très riche. Hein? La famille est très présente à l'époque de la Haute République. Entre autres, la petite jeune qu'on voit à l'écran, là, qui est une Stark presque, là, une ingénieure.
Oui, une génie.
C'est ça, là, ultra douée. Mais que la mère est sénatrice, va trahir la République. Fait que, bref, c'est ça, rôle assez proéminent dans la Haute République. Et là, c'est ça, on ramène, tu sais. Fait que le fait qu'on retrouve cette famille-là, je trouvais ça quand même digne d'intérêt. Mais très rapidement, j'ai trouvé qu'on était là. Et c'est une. Il n'y a aucun homme dans toute la famille, tu comprends, c'est que des femmes. Et là, on apprend que il y a un membre de la famille méchant, c'est l'homme de la famille. Mais là, comme tu as dit tantôt, sa raison de trahir la famille, c'est que Sana Staros, sa sœur jumelle, est allée étudier à l'université. Donc, elle l'a abandonné, entre guillemets. Là. Mais tu comprends
que
la relation frère-sœur des jumeaux peut être plus... plus importante que, par exemple, ce que j'ai connu avec ma sœur. Mais tu sais, de là à virer, tu sais, complètement impérial et devenir là, le méchant et même contribuer à la capture de sa cousine. Puis de,
non, c'était pas
là, j'ai trouvé ça là, tellement facile au niveau scénaristique, tellement absurde que, bon, ça m'a un peu... mais ça, c'est sûr, ça fait comique, c'est revirement de situation, là, comme un soap opéra, justement, là, tu sais, pam pam pam,
ah, c'est vrai que ça fait
frère jumeau démoniaque.
Très, très soap opéra, c'est vrai que là, oui.
Moi, là, c'est ça, quand il arrive des choses comme ça, là, c'est jumeau, méchant, là, tu sais, démoniaque, tout ça, moi, j'associe ça tout de suite à la parodie de soap opéra qu'on avait au Québec qui s'appelait Le cœur a ses raisons. Ceux qui n'ont jamais écouté ça, là, avec Marc Labrèche, Anne Dorval et compagnie, là, c'était à mourir de rire et c'était tous les clichés qui étaient parodiés, là. Justement ça, le jumeau démoniaque, etc. Là, mais bon. Au-delà de ça, j'ai essayé, je l'ai relu, là, c'est ça pour l'émission. J'ai essayé d'y retrouver des choses qui m'auraient peut-être échappé, des choses originales. C'est sûr que c'est des thèmes originaux pour du Star Wars, dans le sens que on n'avait pas eu ça, là, la grossesse et puis tu sais, les... Mais est-ce que ça nous manquait, ça? C'est ça, je me demande. Toi, comment t'as trouvé l'histoire, là?
Un petit peu comme toi, quoi. En mi-tente, quoi. Moi, je suis tiré à Island, eh ben, un peu comme toi. Et, parfois, elle arrive à des sommets comme le Test of Courage, là. Et donc, la création de Vernestra. Out of Shadows, j'avais beaucoup aimé, où justement, Avon Staros apparaissait pour la première fois, là. Mm-hmm. C'est très, très cool. Mais par contre, tu vois, elle continuait avec Mission to Disaster dans l'Autre République, où c'était les mêmes personnages que Test of Courage, mais c'était vraiment, vraiment pas fou, quoi. Mm-hmm. Pareil, son Spark of the Resistance en dehors de l'Autre République, j'avais vachement d'attente en lisant ce bouquin, et j'étais très, très déçu. Par contre, son manga Edge of Balance est excellent. Tu vois, c'est up and down, quoi. A Pass of Defeat, évidemment, qui est excellent pour moi, mais ça, c'est des œuvres qu'elle a fait en collaboration, donc elle était pas vraiment tout.
Ouais, ça. Maintenant, on dirait que c'est toujours ça, hein, toujours en collaboration. Ouais. Ben, avec les mangas, c'est assez habituel là, dans la Haute République, mais c'est ça, souvent, là, c'est avec Tessa Gratton.
Ouais, c'est ça.
Fait que là, c'est quoi la part de Tessa Gratton et de Justine Harlan? Quand c'est des auteurs en collaboration comme ça, c'est dur de dire, OK, ça, c'est le style de telle personne, vu que c'est une équipe. Même le processus créatif, je serais curieux, en fait, qu'on m'explique comment des auteurs... Tu sais, c'est pas comme une collaboration sur quelque chose de documentaire, tu sais. Où... là, c'est carrément... Je sais que pour les scripts, à la télé, au cinéma, tout ça, c'est très commun. Mais ouais, dans un roman, il me semble que ça, c'est ça. C'est... Mais bref, dans ce cas-ci, on sent que... je sais pas comment ça s'est fait, si, ils lui ont offert de faire cette mini-série-là, ou si c'est elle qui est arrivée avec l'idée.
Ouais, ce serait intéressant de savoir.
Mais ça... Comment dire, ça... on sent tout de suite que c'est elle. On reconnaît tout de suite ces fameux thèmes, ces fameux messages qu'elle veut passer.
Oui, parce que Ireland, c'est une militante féministe et pas que, donc très très active. Mais je savais déjà avant de commencer la série, mais c'est vrai qu'en lisant le tome, tu dis que oui, elle a mis tous les thèmes possibles et imaginables dans le comics. Moi, ça m'a pas dérangé en soi.
Dans un sens, j'étais content qu'elle ait pas mis trop d'aspect racisme, tout ça, parce que c'est quelque chose qui était très très impliqué avec le Black Lives Matter aux États-Unis, tout ça.
Ouais, mais dans Star Wars,
c'est pas quelque chose qu'on est habitué d'avoir.
Voilà, mais ça a pas sa place dans Star Wars.
C'est plus avec les aliens d'habitude.
Voilà, c'est plus ça. Puis tu as tellement de variations de couleur de peau et même d'apparence dans les membres sentiens, comme ils disent, que le racisme. Il n'y a pas vraiment de racisme. Au sein de Star Wars.
C'est le racisme anti-alien, mais ça n'empêche pas certaines personnes de... même si ça ne fait pas de sens, n'oublie pas qu'ils ont fait des liens, par exemple, avec Serret et Terret, là, dans la Haute République, là, qui c'est comme si c'était l'équivalent de non-binaire en être humain, là, alors que c'est des aliens, bref.
En tout cas, moi, tous ces messages-là, moi, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Ce qui m'a le plus dérangé dans son scénario, c'est son écriture qui est complètement à côté de la plaque, quoi. Moi, un truc que je trouve mais vraiment naze de chez naze dans le scénario, c'est d'où la sœur, la Arisha, une Staros, donc c'est une famille de gros badass, tu vois, à la base, s'est entichée d'un impérial déjà. Mais tu vois, leur relation, j'y croyais, mais vraiment pas du tout, quoi. La façon dont il la traite, elle est ultra caricaturale. Bah, tu disais, c'est caricatural au possible, quoi. Ouais. C'est vraiment le mari toxique, mais
Je me mêle-tu dans mes souvenirs? Il me semble qu'on a une page ou quelques cases de flashback de quand elle l'a connu, elle savait pas que c'était un impérial au début.
Voilà, ils se sont rencontrés dans une cantina, et ils ont dansé ensemble. Voilà, elle a flashé sur ça, il était gentil avant. Voilà. C'était un peu le cliché, quoi, il était gentil avant, et en fait, c'est un c'est un gros con, quoi, vraiment.
On n'est pas dans le subtil.
C'est vraiment, tu détestes du début à la fin. Et justement, moi, quand je la voyais, les dialogues entre les deux, moi, je comprenais pas comment une femme aussi intelligente qu'Arisha se fout avec un gros connard comme lui. Bon, ça, c'est blocage direct.
Oui, parce qu'elle est présentée comme quelqu'un de. Alors que Sana avait tendance à foncer beaucoup plus, puis Arisha est présentée comme la comment dire, la sage entre les deux.
Un peu posée, ouais. Elle est posée, et puis voilà, elle a eu le temps de se marier et d'avoir des enfants avec. Bon. Du coup, ça fait un petit moment qu'ils doivent se connaître avec ce.
Des fois, les choses arrivent vite, genre, tu sais.
C'est vrai, effectivement.
À Las Vegas, par exemple, là, ça allait très vite.
C'est ça. Ils sont allés au Las Vegas de ça.
Ils sont allés à Canto Bight.
Canto Bight, voilà, exactement. En tout cas, donc voilà ça, et puis même le début, tu vois, ça commence par l'introduction de sa famille, pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais j'ai pas compris pourquoi le gars, donc l'impérial, là, attaque la base de sa femme, au risque de la buter, tu vois, il fait exploser l'entrée ou je sais pas quoi, qui te dit que sa femme n'était pas dans le couloir juste à côté, et qu'il aurait blessé sa femme ou ses gamins, quoi. Enfin, j'ai pas compris, quoi, ça a aucun sens, tout le début du truc, et pourquoi tant de haine avec, alors, la belle-mère, je comprends, parce que les relations... voilà, belle-mère, beau-fils, voilà, ça peut arriver, j'imagine. Mais pourquoi il veut buter, pourquoi il veut exploser la base sans raison, quoi. Enfin, vraiment, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi il fait ça.
Ouais, je pense que c'était de faire une marque très, très claire, là, de voici les gentils, c'est la famille qu'on suit dans cette histoire-là, et voici les méchants de l'histoire.
C'est vraiment clair.
Blanc ou noir, je pense que c'est un. C'est tellement pas subtil que ça peut pas être autre chose qu'un choix. C'est un choix de l'auteur. Faut avouer que c'est une auteure qui, généralement, fait plus du stock, si tu me permets l'anglicisme, fait plus des œuvres jeunesse, même très, très jeune. Là, je ne parle pas juste young adulte, vraiment jeunesse. Où est-ce que, justement, tu rentres beaucoup moins dans le profond et un peu plus dans le facile à comprendre. Là, voici les gentils, voici les méchants. C'est un peu ça, ici. Là.
Ah oui, complètement. Et puis... Oui, parce que j'ai pas compris, parce que la cousine le suit et l'obéit au doigt à l'œil, c'était vraiment bizarre. Et il n'y a pas que ça, donc tu parlais aussi de la relation avec le frère, et là pareil, donc le frère, ok, qu'il soit impérial, c'est intéressant, le fait de savoir que Sana a déjà un frère, je crois que c'est la première fois qu'on fait mention dans le canon, là, et qu'elle lui parle plus, parce que voilà, il est impérial, elle veut plus lui parler, pas de souci, mais tu t'en parlais là, la façon dont il turn dark, tu vois, enfin ta sœur va faire des études. Enfin, je sais pas, fait quelque chose de ta vie, gars, quoi. Enfin,
ouais,
c'est ridicule, quoi. Enfin, il a fait quelque chose de sa vie, apparemment, mais c'est à cause d'une dépression qu'il est devenu impérial, quoi. Et ça, pareil, c'est résumé en une page. Et ouais, j'ai trouvé ça un peu ridicule. Ça, pareil, toute la relation entre la Staros, la cousine et l'impérial, je reviens là. Pareil, j'ai pas compris. Donc, le gars a son spaceship. Il a tout un clou à sa botte, hein, c'est lui le chef du spaceship, mm-hmm. Et il utilise son ship vraiment pour satisfaire sa femme. Donc déjà, une femme qui a l'air de quand même de l'aimer.
Ouais, vraiment comme une croisière, presque.
Ouais, voilà. Et donc, il utilise toutes ses ressources de l'Empire pour aller visiter des planètes, pour lui faire montrer. Là, là. Mm-hmm. Et puis, en plus, la femme a des requests, tu vois, elle veut aller voir cette planète-là parce qu'elle a un plan, machin. Et puis, lui, il va réfléchir au truc, il dirait, pourquoi pas, et tout. Et donc, on est quand même...
Ouais, enfin, effectivement... Je me suis posé la question aussi, il y a un côté, mettons, un gradé impérial qui va secourir sa femme. Évidemment, il va la ramener sur Coruscant ou peu importe. Là. Mm-hmm. Mais là, effectivement, tout l'équipage a l'air habitué, a l'air de trouver ça normal d'avoir une femme enceinte en robe qui se promène dans les couloirs, là, au travers des soldats casqués, là, tu sais, les stormtroopers en pleine alerte de combat ou en tout cas... Je suis d'accord avec toi que, je sais pas, quand je réécoute la trilogie originale, j'ai rarement vu des civils partant, là, déambuler dans les... à part quand on est, par exemple, sur Bespin ou des places... mais tu sais, quand on est dans des vaisseaux de guerre ou dans des...
Ben oui.
Mais bon,
ça... m'a surpris, ouais. Enfin, le décalage était surprenant, parce que, ben, après, voilà, c'est bien d'innover, d'avoir des trucs nouveaux dans Star Wars, tout ça, mais c'est vrai que ce pan-là, d'avoir justement une femme enceinte dans un vaisseau impérial... pendant le duty du gars, enfin pendant qu'il travaille, quoi, en gros, ça m'a surpris, quoi. Donc, ouais, non, niveau scénario, moi, Ireland, c'est pas ce qui m'a emporté le plus dans ce tome-là, ça, c'est sûr. Bon, par contre, je retiens 2-3 trucs positifs, quand même, dans le scénario.
Ouais, vas-y.
Vite fait. Bah, déjà, le flashback de Avon Staros, donc Justina Ireland, donc, elle ramène ce personnage de Test of Courage. C'est celle qu'on voit sur la couverture de Test of Courage, tu vois, on voit Vernestra, et au fond, on voit une petite blague avec ses lunettes. C'est elle, Avon Staros, à l'âge qu'elle a 12 ans, dans le roman jeunesse, je pense. Mm-hmm. Donc, le tout premier roman jeunesse de la phase 1, qu'on vous conseille de lire, il est génial. On n'a pas fait de review, hein, parce que c'était en jeunesse, mais nous, on avait adoré ce petit roman. Hein. Et voilà, ça, j'ai trouvé ça extrêmement cool qu'elle fasse le lien entre la Haute République et la trilogie originale via les Staros, justement. Parce que nous, dès qu'on a lu ça dans le roman Staros, direct, tu avais le lien, quoi. Mmh. Et voilà, donc ça. J'ai aussi beaucoup aimé le retour du personnage, moi, de Deva Lompop. Moi, c'est... j'adore ce perso, j'adore son design. Je trouve ça complètement
hallucinant
d'avoir ça.
Mais c'est coloré.
Oui, c'est...
Et je ne sais pas si on le voit sur certaines des images que j'avais uploadées, mais c'est une race là, que la mâchoire ouvre d'une façon démesurée, là, au point que ça fait étrange, en fait, quand il y a des scènes d'action. Peut-être sur la couverture, sur le deuxième. Ouais, on voit un petit peu, là, c'est caché par son épaule. Mais c'est ça, t'as la mâchoire qui ouvre vraiment grand. Là.
C'est ça. C'est
tout un personnage.
Ouais, donc ça, c'est très cool. C'est pareil, c'est un personnage qui a été créé par Ireland, comme quoi elle a quand même des bons points, tu vois. Elle a créé des bons persos. Qu'elle a créé dans le one-shot Jabba the Hutt, là, qu'on avait beaucoup aimé. Et depuis, elle la réutilise un peu partout, et c'était cool de la revoir. Moi, j'ai beaucoup aimé la relation Sana avec son frère, quoi. Le fait qu'il soit impérial, c'était quand même une petite surprise. La raison, on n'y revient pas, très très naze. Par contre, voilà, le moment où il surprend Sana pour convaincre la cousine d'accompagner la fac, tu vois, je trouve pas ça déconnant, tu vois, ce sont deux jeunes femmes du même âge, elles se disent, allez, bah, vas-y, on va à la fac ensemble, là. Donc la fameuse université d'archéologie où Sana rencontrera Afra plus tard, et je trouvais pas ça déconnant que deux jeunes femmes décident de leur avenir et laissent un peu le frère de côté, mais voilà, de là à le plonger dans une... Enfin bref, j'y reviens plus. Donc, mais voilà, leur petite relation, il y a quelques cases qui m'ont bien aimé, leur espèce de petit combat qu'ils ont dans l'épisode 4 et 5, c'était pas mal. Quand il lui sort, j'aurais dû te tuer à l'intérieur du ventre de notre mère, tu vois, et que Sana est vraiment touchée. Pas. Voilà, c'est quand même violent comme truc, quoi. Et donc Sana, ça se voit sur son visage, elle est un peu deck, quoi, parce que même si elle dit détester son frère, c'est quand même son frère, tu vois, et puis si ce sont des jumeaux, tu te dis, ils ont quand même un lien spécial, quoi, bref. D'ailleurs, elle décide de pas le tuer à la fin. Elle décide de juste le voilà parce qu'elle a quand même des sentiments pour lui. Donc c'était intéressant le petit lien, ça et son frère. Et voilà. Ah oui, bah c'est pas vraiment un point positif. Du coup, je l'ai mis dans les positifs. Mais voilà, l'aventure, elle est relativement plaisante à suivre, on va dire. Le coup du Zoro, on en reparlera, j'ai pas mal aimé. Mais la conclusion est ultra décevante, en fait. Moi, je pensais qu'on allait plus avoir de relations entre Avon et Sana via l'artefact, là, l'espèce de Tesseract Staros. Et que dalle, en fait.
Ouais,
Sana récupère la flamme.
Ouais. C'est évacué, là, ouais.
Ben voilà, elle crache le truc, et du coup, tout ça pour ça, quoi. Il y aura pas de suite sur qu'est-ce qu'il y avait sur ce cube, pourquoi il était si important, pourquoi les impériaux le voulaient. Et pourtant, c'est des recherches d'Avon, donc ça devait être important, sur des cristaux, donc je sais pas trop, les Kyber Crystals, peut-être, je sais pas.
Ouais.
Mais c'est dommage, parce que ça, c'était justement une espèce de MacGuffin, moi, qui m'intéressait, du coup. J'aurais voulu en savoir plus, et non, on saura jamais. Voilà. C'est dommage.
Ouais, non, d'accord avec toi. C'est, après ça, c'est des choix. Là. Je comprends que c'est une mini-série en 5. On ne peut pas non plus là, prolonger ça à profusion. Tu as mentionné l'espèce de zoo aussi. Là. Bon, on va avoir Sana qui va chevaucher un Rancor, comme on a vu dans la série Le Livre de Boba Fett, mais comme on avait déjà vu dans d'autres comics. Là. C'est pas une nouveauté.
C'est pas nouveau.
Non, c'est ça. Mais c'est ça. C'était sympathique. Sympathique, comme tu dis, ça c'est relativement fluide, ça passe vite. Moi, c'est sûr que c'est ça. J'ai mentionné pour ce personnage-là, je me serais attendu à plus, je sais pas, quelque chose par rapport à un cambriolage, par rapport à un plan, là, comme on voit souvent dans les Afra, comme on voit d'habitude avec Sana Staros.
Oui, oui.
Là, ça, c'est très, très peu de ça et beaucoup d'improvisation, puis ça explose de partout, puis revirement de situation, etc. Ouais. Donc, voilà.
Déçu.
Vraiment pas impressionné du côté du scénario.
Non. Et justement, on avait une attente tellement énorme pour ce personnage-là, avec notre déception et la mesure de notre
histoire. C'est ça, c'est qu'on a eu beaucoup mieux avec elle, même dans des... Je me souviens, il y avait un annual consacré à elle, il y avait Luc aussi présent, je me souviens, mais c'était très bien. Fait que tu sais, c'est ça, déjà souvent les one-shots, c'est loin d'être extraordinaire. Là, on a eu plein de choses de qualité avec ce personnage-là. Là, on a une série en 5 et c'est décevant. Bon, fait que ça vient juste ajouter à la déception. Puis côté graphique, écoute, je suis curieux d'avoir ton avis. Ah. Je vais te caler.
Ben voilà, bon, alors c'est Pere Pérez, comme t'as dit, j'adore son nom, Pere Pérez. Donc lui,
facilement, ça c'est sûr.
Ouais. Donc lui, il avait juste fait... le one-shot révélation l'an dernier, là, l'espèce de comic crossover qui réunissait toutes les séries en 30 pages. Là. Mm-hmm. Donc c'était qui était sympathique, moi j'avais bien aimé. Il faisait le lien entre Crimson Rain et Hidden Empire. Je crois que Panini l'a déjà publié dans un de ses reliés souples. Là. Mais, donc c'était très cool. Et moi, voilà, bah, c'est le point fort de ce comic, je trouve. J'ai adoré son style, ultra dynamique dans les scènes d'action. Les scènes d'action, c'est vraiment ce que j'ai adoré lire, quoi. Les batailles spatiales, les gunfights, c'est super, super stylé. Les designs, ben, notamment de Sana, moi, j'ai adoré. Sana, elle est juste magnifique, elle est sublimement bien dessinée, j'ai trouvé. Les autres persos aussi, hein, mais particulièrement Sana, tu vois, il s'est bien appliqué, et c'était super cool, quoi. Par contre, ouais, il lui fait prendre des pauses pendant les scènes d'action un petit peu grotesques, on va dire. Mais je sais pas, dans Feu de l'action, dans un comics, ça passe, quoi. Donc, gros point fort, gros coup de cœur, c'est les dessins. Ouais. Et toi, t'as bien aimé ou comment? Ah, allô?
Pardon, petit problème de son. Donc, disais tout à fait d'accord avec toi. Perso, là, j'ai aucun négatif à redire. Je vois de quoi tu parles au niveau de ses poses, parfois, là... cartoon un petit peu là, mais globalement c'est magnifique, super duo aussi avec le coloriste. Je montre un exemple à l'écran là, avec des flammes, l'éclairage sur la peau des personnages là, regardez au niveau du nez de, c'est quoi le nom déjà de cette chasseuse de primes là, je me souviens jamais.
Deva,
c'est ça,
Deva, oui, la verte.
Même chose vers les dernier numéro, là, on a l'autre personnage, on a des ambiances un peu différentes. J'ai pas leur rencontre, là, mais bref, ils vont souvent dans des bars, des cantinas, fait que ça varie beaucoup d'une place à l'autre. Non, c'est ça, moi, vraiment rien à redire. On n'a pas mentionné tantôt dans le résumé, hein, tu disais qu'on est sur Osnian Prime, comme tu as dit, on n'est pas dans la partie, on va dire, urbaine. C'est comme si c'était des villes marines flottantes là, ou quelque chose comme ça, là, au milieu de l'océan. fait que, bref, plein de designs comme ça intéressants. de l'alien à profusion. C'est Tom qui serait content.
Ah oui, oui.
Un environnement nordique aussi que j'ai bien aimé. Ça faisait très, très réaliste là, avec les manteaux de fourrure et tout ça.
Oui, j'ai un passage dans une planète enneigée. Ouais.
Un petit quand on est dans du flashback, on a un petit côté pas grisé, mais en tout cas j'ai trouvé ça très réussi. On change de style un peu là, pour montrer qu'on est, même quand des fois c'est juste une case, on en a un à la fin là, une espèce de souvenir de Afra, tu sais, fait que c'est ça qui identifie mm-hmm. tout de suite là, qu'on est dans des pensées, on va dire là, ou fait que bref, non c'est ça, moi rien à redire, un style que j'aime beaucoup, j'espère qu'on va le retrouver en fait. Pérez, je garde ça en tête, et comme je disais, le nom est facile à retenir, là, mais j'espère qu'on va le retrouver avec le duo de dessinateurs aussi, c'est, c'était vraiment très réussi.
Oui,
c'est ça, visuellement c'est agréable. Puis côté couverture, on est passé vite en ouverture tantôt. Oui. J'ai trouvé, qu'il y avait des belles pépites.
Ah super, bien sûr. Franchement, celle que tu mets là, voilà, la numéro 1, c'est juste voilà, le portrait de Sana qu'on aura en miniature, je crois. C'est superbe, enfin c'est magnifique, quoi. Il n'y a pas de mots. En plus avec l'espèce de planète, là, l'espèce de lance flare, machin, qui fait très Star Wars aussi. J'adore les cheveux.
Ouais, non, c'est ça. Comme tu disais, là aussi on est dans le dynamisme, c'est coloré, ça nous vend tout de suite qu'il va y avoir de l'action à profusion, etc.
La 2, c'est ta préférée aussi, non?
Ouais, je dirais la première puis la deuxième. Là, c'est pour ça aussi que j'étais un peu surpris que Marvel et Panini aient opté pour la numéro 5 là, comme couverture de TPB ou Panini d'album 100%. Parce que c'est celle, je comprends que c'est celle où on voit plus les personnages principaux. Mais je sais pas, c'est la plus, pour moi, c'est une des plus drabes. Donc,
pareil, mais je comprends le move éditorial. Ouais, tu vois la famille, tu vois le vaisseau, tu vois ça là en gros plan. Ça résume vraiment le tome. En plus, c'est Family Matters, donc tu vois ça fait bien.
C'est vrai, en ce sens-là, effectivement.
Mais comme toi, moi, les deux premières, c'est une préférée. Celle avec le 4, là, avec son frère, bon, je la trouve ok, sans plus. Et voilà, mais non, la deuxième avec le. Comment ? Avec Deva, c'est justement celle-là qu'ils ont utilisée en quatrième de couverture, du coup. Même, enfin, en VO, j'imagine en VF aussi. Du coup, la 3, la Rancor, c'est pas mal. Ouais. Ça annonce la couleur du numéro qui se passe dans un zoo. Elle est très jolie, mais j'aime bien, encore une fois, ils ont mis des espèces de sphères, là, de planètes soleil, je sais pas trop, comme sur la couleur. Là. Je trouve ça superbe, quoi. J'adore ce petit truc stylé. Là. Donc ouais, ça va. Mais c'est vrai que les deux premières sont magnifiques, quoi. Très très beau.
Puis, est-ce que c'est des couvertures variantes que je voyais que tu avais ajoutées?
Ah, attends, mais je vais en rajouter là, si tu veux. Il y en avait quelques-unes que j'avais envie de discuter. Mais ouais, parce qu'il y en avait quelques-unes de très sympas.
Là aussi, on était dans le fameux zoo, là, comme on disait, avec le Rancor. Et tu d'autres bestioles, comme vous voyez à l'écran.
Ouais, mais l'épisode du zoo, on pourra en parler. Moi, c'est un passage qui m'a beaucoup plu, parce que déjà on voit énormément de bestioles de l'univers Star Wars, donc on voit deux des trois créatures de l'épisode 2 là, donc la clé, l'espèce de grosse araignée là, et le Nexu qui est l'espèce de petit tigre là, enfin petit, c'est le plus petit des trois, mais c'est un énorme tigre. Il y a pas l'espèce de rhino là, mais c'était très cool de les revoir. Il y a aussi le Varactyl, qui sont l'espèce de lézard qu'Obi-Wan chevauche dans l'épisode 3. Il y a les sirènes qu'on voit dans l'épisode 8, il y a les Minok qu'on voit dans l'épisode 5 quand le faucon est dans le ver de l'espace là. On a la mention des Ice Gator. Les Ice Gator, pareil, c'est ce qu'on voit sur la couverture d'un des bouquins de Justin Ireland, c'est Mission to Disaster, où tu vois Vernestra se battre contre des alligators bleu ice, quoi, bleu glace. Donc c'est très cool. Et il y a quoi d'autre? Ah oui, il y a le géant, l'hydre, le fameux hydre que tu montrais justement, un Rakslite, qu'on avait aussi dans le zoo de Valo. Dans The Rising Storm, on se rappelle, il y avait une espèce de grande foire avec un zoo avec plein de créatures qui s'échappaient quand le Nil attaquait, et il y avait cette espèce d'hydre énorme. Voilà, c'était cool. Il y a même C'est quoi le... Ah, j'ai oublié le nom, j'ai pas le nom. Les chouettes de Dave Filoni, là. les contes de...
C'est les Purgils.
Je sais plus, les petites chouettes qui se battent, qui sur l'épaule d'Ahsoka.
Associées à Ahsoka.
Voilà. Donc il y a ça aussi. Donc voilà, ouais, il y a tout plein de... Alors voilà, ça c'est génial, t'as plein de créatures, c'est super. Donc ils vont faire un casse dans un zoo où ils vont faire s'échapper le rancor. Et là il y a une case, voilà, la séquence pour moi elle tombe totalement à plat quand Sana doit s'enduire d'urine de rancor pour l'approcher en toute sécurité, en fait. Et alors je comprends l'intention du scénario, ça fait sens, tu vois, pour pas que le rancor l'attaque et l'apprécie, mais là la case où je vois Sana s'asperger d'urine, je sais pas, moi il y a un truc qui a bloqué encore une fois. Je trouvais ça tellement dommage pour ce personnage. Qu'est-ce que tu fais, Justina, là?
C'est ce que les chasseurs font pour pas se faire repérer en forêt.
Ouais, non, mais encore une fois, oui, ça fait sens, mais je trouve ça naze, parce que juste après, je me dis, mais pourquoi Deva, elle chevauche pas le truc? Parce que Deva justifie le fait qu'elle, hein, donc elle lui dit, le rancor reconnaît et n'attaque pas un prédateur, donc ce que Deva doit être pour le rancor, un prédateur. Donc c'est pour ça que le rancor ne va pas attaquer Deva. Mais du coup, pourquoi Deva, tu montes pas le rancor, et c'est toi qui le maîtrises, pour éviter qu'il attaque Sana. Et pourquoi tu fais faire ça à Sana? J'ai pas aimé ce passage du tout. Mais bon, c'est un détail.
Bref, on a digressé, c'est ça, parce qu'on était parti vite sur la fameuse séquence du zoo, mais si on revient justement aux couvertures variantes, là aussi il y avait des petites pépites, et on voit à l'écran la fameuse silhouette caractéristique de Sana.
Ça, c'est Sarah Pichelli, je crois, qui l'a fait, je crois.
Mm-hmm. Et qui est utilisé, mais pas tout à fait ça, mais à chaque numéro, là, la page, on va dire, où est-ce qu'on a les crédits, l'auteur, etc., le dessinateur, tout ça, là, c'était, il y avait cette silhouette-là là, en simplifié, évidemment, en deux couleurs.
Elle est superbe. Superbe. Il y en a une de Peach Momoko, tu vas t'en rappeler, cette autrice, parce qu'à chaque fois j'en parle, mais là, je suis un peu déçu, hein, parce que c'est elle qui fait celle-là, là, je te la montre. Excuse-moi. Donc voilà, c'est la seule qui montre pas Sana, mais la grande ma, alors la cover est jolie. Le niveau artistique, c'est joli, mais c'est dommage qu'elle ait pas fait une Sana. J'aurais beaucoup vu une Sana par Peach Momoko, mais bon, c'est dommage. Mais c'est pas grave. Et il y a celle de Bustos et Rosenberg, c'est celle avec Aphra en fond que j'aime bien. Qui est là, sauf voilà, c'est dommage parce que je trouve qu'ils ont raté les visages. Les visages d'Aphra et de Sana, surtout, c'est pas ça. C'est dommage
Sana, effectivement,
C'est dommage parce que j'aime bien l'intention de. Mm-hmm. Parce qu'en fait, Sana, pendant tout le. Tu l'as montré, hein, pendant tout le tome, de temps en temps, elle se rappellera Aphra et t'auras Aphra dans quelques cases flashback comme ça. Et comme quoi elle peut pas encore l'oublier parce que leur rupture est encore récente. Donc c'est j'adore ça, tu as des petites romances comme ça, j'adore. Et celle-là qui est très belle aussi, qui est de l'artiste Jen Bartel, je crois, qui est très sympa aussi. Donc bon, des bien belles variantes cover. Ouais. Mais ça vaut pas la 2, la régulière numéro 2 ou la première.
Ouais, non, c'est ça, des fois, comme je disais, il y a des petites pépites, mais n'empêche que les choix étaient très bons là. De l'équipe là, Ken Lashley et Juan Fernandez qui ont fait les signatures de la série. Fait qu'écoute, somme toute, Jean, si je te demandais de noter sur 20 cet album de Sanastaros, j'allais dire premier album dans le sens que on a quand même une fin vraiment clairement ouverte sur autre chose, sur une suite, mais pour l'instant, il n'y a rien annoncé. C'est une mini-série en 5. Une petite note sur 20, Jean?
Oui, ben écoute, je suis un peu embêté là parce que j'avais mis cette note là, donc je te dis pas de suite parce que je suis en train de réfléchir là. Parce que contrairement à Yoda, j'avais mis juste en 16, tu vois, alors qu'il m'avait beaucoup beaucoup plu, et là en fait c'est l'effet inverse, tu vois, j'avais vachement d'attente pour ce tome là, et j'avoue avoir été un petit peu déçu à la lecture de ce tome là. Il y a quelques fulgurances, hein, moi les histoires de la famille Staros, pourquoi pas, ça m'a pas inintéressé, mais ça m'a pas passionné plus que ça. Le gros problème, c'est que j'ai eu zéro émotion pendant tout l'épisode, quoi. À part c'est quand même joli, c'est joliment dessiné, à part ça, voilà. Alors que Yoda avait des petits pics d'émotion là qui m'ont bien plu. Là, il y a aucun perso secondaire, ben notamment de sa famille, hein, qui m'a procuré aucune émotion. Il y a Deva, voilà. Heureusement qu'il y a Deva qui remonte un petit peu le niveau, elle est un petit peu fofolle et j'aime bien ça. S'il y a un passage avec Deva et Sana, par contre, j'ai pas du tout aimé. C'est quand elle se fout sur la gueule dans la neige, justement là. quand Deva essaie de lui faire avouer quelque chose ou l'énerver. J'ai pas compris, ça dure 4-5 pages, c'est long, c'est chiant, j'ai pas compris. Et du coup,
ça sert absolument à rien.
Ouais, ça sert à rien.
C'est juste pour montrer que c'est des têtes brûlées les deux.
Ouais, voilà, peut-être. Ouais. En tout cas, j'avoue avoir bien aimé la thématique féministe, clairement, que Justina Ireland, pardon, qui, on l'a dit, est une fervente féministe, a clairement posé ici quoi. Les méchants sont tous des hommes, alors que ce soit le mari, le frère, mais aussi le chasseur de primes, sont tous des hommes. Et tous les héros sont en fait des héroïnes, hein, jusqu'au personnage tertiaire, tu vois, même l'alien bleu, on le disait, elle est. Et quasiment, je crois que tout le crew de Deva est féminine. Quoi. Ah, si, il y a Ondonaka qui fait une petite apparition furtive. Oui. Avec,
là aussi, je me suis dit, mais à quoi ça a servi? Vraiment, là, tellement.
Il sert à rien. C'est vraiment caméo. Quoi.
Bon.
Voilà. Donc, voilà. Mais le côté crew de personnages féminins, moi, j'aime bien. Ça, j'ai beaucoup aimé. Enfin, ça ne m'a pas dérangé. Hein, comparé, enfin, j'imagine que ça dérangera pas mal de lecteurs, mais moi, ça m'a en tout cas bien plu.
Ah, oh, mais. C'est pas one, mais je serais pas au point de te déranger, je crois. C'est que c'est vraiment pas subtil,
ah non.
Mais c'est pas. C'est ça, là. C'est pas, je pense pas qu'il y a des gens que ça va rebuter.
Ouais. Bon, en tout cas. Et même voir la grand-mère, là, la grand-mère, de voir un petit peu un personnage vieux, badass, qui a un passé, qui a. On voit qu'elle a été snipeuse dans le crew de Deva pendant un moment. Oui, parce que Deva, en fait, c'est un alien, j'ai plus sa race, les Shani, voilà. La race de Deva, c'est les Shani. Donc l'espèce de race verte avec des plumes et la bouche de serpent. Là. Et donc c'est une race qui vit apparemment comme les Wookiees très longtemps, parce qu'elle a connu donc, la petite Avon Staros qui était jeune à l'époque de la République, elle est toujours là. Elle a connu la grand-mère quand elle était plus jeune, qui travaillait pour elle. Bref, c'est une race qui a une longue longévité, on va dire.
Ouais, classique dans Star Wars.
Voilà, ouais, c'est vrai que ça commence à faire maintenant.
C'est vrai qu'on est de l'inverse, à un moment donné, des races qui vivent moins longtemps que les humains, ça serait original.
Ouais. Mais voilà, voir une grand-mère un peu badass, c'était relativement original, j'ai envie. Voilà. Quoique non, dans Star Wars, t'as quand même la Obi-Wan, vieille Obi-Wan. Bref. Et en gros, moi, ce sont les dessins, les couvertures et les caméos et easter eggs. Il y a plein d'easter eggs.
Ouais, les références. Quoi.
Voilà, les références à la République, les petits liens aux autres œuvres de Justina Ireland. Donc ça, c'était très très cool. Et voilà, PPLS, là, voilà, c'était super. Donc, le dessin, c'est ce qui m'a fait donner un. Alors, je me suis arrêté à 15. Je vais peut-être descendre à 14 quand même, parce que elle fait d'en discuter avec toi.
Écoute, t'es libre, genre, on te jugera pas, là.
Ouais, non, mais tu sais quoi, je vais le charger en direct, là. Pam, pam, voilà. Ouais, petit 14, parce que ouais, non, j'avais mis un 16 à Yoda, et là, je regrette de pas avoir été plus haut avec Yoda, mais là, un 15, ça fait un peu beaucoup, surtout qu'on l'a pas mal critiqué. En gros, je mettrais un 10 sur 10 en dessin, et voilà, ouais, un 4 sur 10 en scénario. Mm-hmm. Donc, un petit 14.
Ouais, je vois ce que tu veux dire, moi aussi, c'est ça, je fais pas de système là, de votation, par exemple, moitié dessin, moitié scénario, mais je suis d'accord avec toi, 10 sur 10, 20 sur 20, peu importe, là, pour graphique, c'était très joli, puis c'est ça, scénario, c'est là que de mon côté, ça perd tous ses points, je gravitais autour du 12, j'étais curieux de voir si t'allais me sortir, par exemple, du positif que j'avais manqué, ou du... Mais je pense que c'est ça. Je vais rester sur un 12 sur 20, là, un 60%. C'est ça, grosse déception pour moi au niveau de l'histoire. Vraiment, là. Et tu sais, des fois, une première approche, nos attentes nous ont gâché un peu, notre premier contact, là, mais à force de, par exemple, de relire ou de réécouter, par exemple, moi, je me souviens, Rogue One, j'avais été déçu à mon premier visionnement, et dès la deuxième fois en salle, j'étais allé le voir deux fois en salle, dès la deuxième fois, là, je me mettais à apprécier plein de choses. Cette fois-ci, c'est pas le cas. J'ai eu beau relire, je suis désolé, oui, ça m'a pas magnifié le tout. Là. Fait qu'on va rester sur un 12 sur 20. Mes personnages, quand même, ceux qui ne le connaîtraient pas du tout, écoutez, découvrez-le, c'est un personnage qui gagne à être connu.
Lisez Docteur Aphra. La JF, il shut down.
Ouais. Ouais, si vous avez apprécié, par exemple, des autres, entre autres en français, là, chez Lisez, de plus en plus, là, les Français découvrent des audiobooks, audiodrama. Si vous avez apprécié, là, il n'a pas été traduit, mais l'audiodrama de Docteur Aphra était vraiment excellent. Une grosse plus-value là, par rapport à ce qu'on avait dans les comics. Beaucoup de stocks supplémentaires, mais aussi juste au. juste la manière que c'était acté, là, les réactions, ça, le personnage d'Afra vraiment bien caractérisé. Et c'était la seule fois qu'on l'entendait aussi, parce que c'est un personnage qui était exclusivement là, comics jusque-là. Fait que voilà, allez découvrir Silent Stara, ce personnage que j'aime beaucoup, malgré la note un peu faible pour cet album-là.
Oui.
Fait que voilà, Jean, si je te demandais rapidement, qu'est-ce qu'on a au programme pour les prochaines émissions?
La prochaine émission, comics, donc nous allons critiquer le tome 6 de la série Dark Vador, ainsi ouais. que la mini-série Hidden Empire, si je dis pas de bêtises. Et niveau roman...
Ouais, le 100%, autrement dit, les numéros vraiment de Hidden Empire.
Hein. Ah oui, si, tu viens de préciser, hein, ce ne sont pas les numéros souples là, c'est vraiment le numéro rigide avec la mini-série Hidden Empire. Et en roman, là, on est en train de préparer notre prochain gros roman qui est Eye of Darkness, qui sortirait un peu plus tard, peut-être après les fêtes, je ne sais pas.
Ouais, peut-être juste après les fêtes, là, entre autres avec le retour de Cécilie aussi, de retour des études, un peu comme Sana. Là, nous, on n'est pas devenu impérial là, à cause de cette séparation-là. Mais, fait que, ouais, puis c'est ça, il y avait le Star Wars numéro 6 qu'on pensait faire aussi, mais on ne sait pas trop, la publication a été... reporté au mois de mars prochain du côté de chez Panini. J'ai pas compris pourquoi, là, mais bref, il était censé sortir en même temps que les autres en décembre. Fait que voilà pour ce qui est des prochaines littératures. Et pour le reste, je sais qu'il y a des choses en travaux là, au niveau des épisodes collector. Je me demande s'il n'y a pas une musique aussi qui est en travaux du côté de Fred et Aude. Bref, c'est ça, des petites surprises là, qui s'en viennent pour vous ici et là. Donc, écoutez, c'est sur ces bonnes critiques quand même qu'on va conclure cet épisode de Star Wars en direct littérature. Comme toujours, si vous avez des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part sur les différents réseaux. Entre autres, Facebook, hein, on peut jamais le dire assez, mais vous abonner, vous partager la cloche, tout ça, les commentaires, c'est très important pour le référencement. Puis comme je disais tout à l'heure, on vous invite à venir nous faire coucou, nous suivre, tout ça sur le nouveau réseau Blue Sky, donc à swendirect.bsky.social. Donc, voilà, il me reste juste à vous dire que de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis plus de 20 ans, et que la force soit avec vous!